Bonjour à tous. Changer l'art pour changer le monde. Bienvenue à vous pour une semaine d'art en Avignon qui s'est ouverte vendredi et qui durera jusqu'au 31 octobre. Semaine imaginée par le directeur du plus grand festival estival de théâtre, c'est Olivier Py, qui nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, une pluie de mots et de cendres dans le jeu des ombres. Il nous livre une nouvelle interprétation du mythe d'Orphée. Le metteur en scène et directeur du TNP de Villeurbanne, Jean Bellorini, et le dramaturge et metteur en scène Valère Novarina, auteur du texte qui paraît chez POL et qui s'ouvre sur ces mots « Le premier instant dure toujours ». On est ensemble jusqu'à 13h30, bienvenue à tous.
La grande table. Olivia Gesbert.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, verehrtes Publikum, ich präsentiere les ombres du jeu des ombres, les antipersonnes. Die tote Person, Eurydice. Die Fährfrau, l'ambulancier Caron. Aussi ein enfant de la colère. L'autre enfant de la colère, la dame de pique. Leur valet de carreau, l'homme hors de lui. Die beiden Kantoren, chantre, contre-chantre. Orphée, asseyez-vous, bitte, 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 bitte. Orphée, malgré lui. Die Geschichtenerzählerin, Ovid. Voilà. Und ich heiße Flipot. Eh ben oui, Flipot quoi. Une espèce de Perséphone.
La pièce « Le jeu des ombres » est à voir toute cette semaine à la Fabrica à Avignon à 17h30, horaire avancé pour cause de crise sanitaire. Puis elle va s'envoler en tournée et commencera par un premier arrêt aux Gémeaux de Sceaux. Bonjour à vous Valère Novarina.
Bonjour.
Et bonjour Jean Bellorini.
Bonjour.
Vous êtes l'un avec moi en studio ici à Avignon, chez nos confrères de France Bleu Vaucluse, l'autre à Paris, pour discuter, réfléchir autour de cette pièce, Le jeu des ombres, que vous avez pensée ensemble. On entendait la présentation des personnages qui peuplent cette pièce, Le jeu des ombres, dans la voix de la comédienne Anke Engelsmann du Berliner Ensemble. À mes côtés aussi, Oriane Delacroix, bonjour.
Bonjour.
Alors Anke Engelsmann, cette voix en allemand qui se prononce ici pour camper un peu le décor et qui nous parle surtout d'Orphée, le héros malheureux, tragique de cette pièce. Elle est là, c'est une pièce totalement polyphonique que vous avez pensée, Jean Bellorini.
C'est une pièce sur le sens même polyphonique, effectivement, sur la façon de l'ouverture de la parole et la nécessité aujourd'hui, je crois, de ne pas réduire la parole à un acte de communication, mais au contraire, qu'on puisse se parler et que les mots puissent s'ouvrir, se réinventer, avoir différentes interprétations. Et au fond, on interprète toujours une langue étrangère, celle de Valère Novarina que j'aime infiniment, pour justement laisser au spectateur l'interprétation libre. Et ça n'a pas le même écho en chacun. Et c'est ça qui compte.
Valère Novarina, une pièce chorale, c'est comme ça que vous l'avez imaginée ?
Oui, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée de polyphonie, de multiplication, de creusement, de purification des choses. Justement, ce que disait Jean, c'est très juste. En ce moment, il y a quelque chose qui se développe. Comme l'enfer de la communication. J'ai sur mon ordinateur un dossier qui s'appelle l'enfer de la communication. Une communication mécanique. C'est-à-dire le langage se mécanise autour de nous. Il perd des couleurs chaque jour, des consonnes, des rythmes. La pensée n'est plus rythmée. La langue semble à bout de souffle. Il y a un phénomène de dépérissement. Il n'y a pas que les forêts amazoniennes qui meurent, qui dépérissent, il y a aussi toutes les langues du monde à qui il arrive à peu près la même chose, une espèce de simplification, voilà, tout va dans le sens de l'usage rapide, etc. Et on perd complètement la respiration, la chair du langage, l'incarnation du langage. Il m'a toujours semblé que toute représentation du langage sur une surface plane, avec ce qui est dit, ce que ça signifie, en signifier, etc. Et il faut se représenter le langage comme fréquentant l'espace. dans l'espace et même ouvrant l'espace. Il me semble que le ouvrant l'espace de la pensée, la pensée c'est ouvrir sans arrêt, ouvrir l'espèce d'opération de creusement. Il y a un mouvement dans le 13e quatuor de Beethoven qui est très fascinant, qui s'appelle Kératine. Voilà. Est-ce que peut-être le langage, la pensée, c'est le creusement d'un espace, et que le langage existe toujours dans un espace. L'espace de la scène, l'espace sur la page, l'espace dans notre corps, même si on lit sans parler, etc. Il n'y a pas de lieu où s'affronteraient les concepts, les idées, il n'y a pas de lieu neutre. Le langage est toujours incarné. Aujourd'hui, il y a quand même une énorme offensive de la désincarnation dans tous les domaines.
Et je vous soupçonne, Valère Novarena, de ne pas être là avec nous. Vous auriez dû être ici à Avignon pour le lancement, l'ouverture de cette semaine d'art pensée par Olivier Py. Je vous soupçonne de ne pas être là à cause d'un mot qui a émergé à cause de la crise sanitaire. C'est le mot présentiel. Voilà pourquoi vous n'êtes pas ici en présentiel avec nous aujourd'hui.
Présentiel, en chair et en os.
En chair et en os. À la commande de Jean Bellorini, parce que c'est une commande, il est venu vers vous pour vous demander ce texte. Vous n'avez pas répondu par une pièce clé en main. Dans une note, vous parlez de la version théâtrale du livre. C'est cette version qui est créée ici à Avignon par Jean Bellorini. Et de fait, la version scénique, on l'imagine, n'est pas l'exacte transposition du texte. Pourquoi ? Jean Bellorini, d'abord, pouvez nous confirmer ça ?
Mais j'avais demandé à Valère, effectivement, d'écrire autour du mythe d'Orphée. Je pensais à la troupe, je pensais à l'espace. Et très vite, dès la première proposition de Valère, les acteurs se sont confrontés à certains moments et on a réduit, on s'est concentré sur des moments qu'on aimait particulièrement, et je voulais mettre en résonance ce texte avec l'opéra de Monteverdi, l'Orfeo.
Et Valère Novarena, qu'est-ce que c'est pour vous une version théâtrale du livre ?
Ce qui s'est passé de curieux avec Jean, c'est que à un certain moment, le texte a été arrêté, puis ensuite je l'ai donné à Jean et j'ai continué à travailler le texte, à le développer, à continuer jusqu'au moment où de rendre les épreuves à l'éditeur. C'est très curieux parce que là, Jean est dans son studio en Avignon. Moi, je suis à la montagne près de Morzine dans le brouillard, etc. On est chacun prisonnier dans son coin. Et on a travaillé comme deux prisonniers qui se font des signaux en tapant au barreau, en grattant le mur, etc. C'était une collaboration pas du tout fusionnelle et en même temps, mais un accord silencieux sur beaucoup de choses, et chacun creusant loin. Et j'ai vu j'ai pas vu le spectacle malheureusement encore, mais j'ai vu des filages. Jean creuse aussi, mais il creuse aussi avec la lumière, avec l'espace. Et ce que j'apprécie chez lui, pour revenir à cette histoire de polyphonie, c'est que Jean est un rythmicien. C'est un musicien plus qu'il compose de la musique. Moi, je suis un musicien incapable de chanter trois choses justes, etc. Mais j'affiche tout le texte au mur, et je pense que les musiciens comme ça, pour voir le langage fleurir dans l'espace, des figures apparaissent dans l'espace. Et une chose qui est en train de me préoccuper de façon bizarre, c'est qu'il me semble que la musique a affaire à l'espace. La musique consiste à prendre le temps dont on peut rien faire, le temps qui nous fait quand même dans le fond que du mal. Le temps est dangereux, mais tout d'un coup creuser et faire apparaître des rosaces, des figures géométriques, du renversement et tout un drame de l'espace. Je suis toujours bien incapable de parler de ce que dit la pièce, de ce qu'il raconte, mais je parle sans cesse aux acteurs du drame de l'espace, et que l'espace va en se purifiant, justement comme dans le contrepoint, comme dans l'art de la fugue, commencer par un espace très simple et petit à petit rajouter l'envers, le renversement, etc. Il y a toute une aventure de l'espace que le spectateur suit de très près.
Et le jeu des ombres, Valère Novarena, est une pièce musicale. Le point de départ, Jean Bellorini l'évoquait, c'est l'Orfeo de Monteverdi, une version toute particulière, une version repensée. On écoute d'abord un extrait musical.
Sacresci fierezza qui pietà che sempre qual scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà. La speme fallace rivolgami il piede di letto nel pace non scendono a me e l'empiaca d'oro mi nieghi ristoro di buona merce tra doglia infinita tra speme tradita vivrà la mia fe. Se fiamma d'amore già mai non sentì quel rigido cuore che il cor mi rapì. Se nega pietate la cruda beltate che l'alma invadi ben fiate dolente mentita in languente sospiri mi un dì.
Vous êtes pour cette pièce, Le jeu des ombres, cette pièce musicale, vous êtes allé puiser dans le répertoire baroque avec cet Orfeo de Monteverdi, en lui donnant des accents de cabaret, Jean Bellorini, ici les voix de deux de vos chanteurs, Aliénor Fex et Ulrich Verdoni, et une sacrée équipée pour cette pièce, Valère Novarina pour le texte, on le disait, il est avec nous en ce moment sur France Culture, la collaboration artistique de Thierry Thieu-Niang, la direction musicale est signée Sébastien Trouvé, en collaboration avec Jérémy Poirier-Kino, et je n'oublierai pas, entre autres, Macha Makaïev pour les costumes, la directrice du Théâtre de la Criée à Marseille.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Orphée, ce mythe, quand même, on ne l'a pas encore raconté. Alors j'ai bien compris que c'est pas vous, Valère Novarina, qui allez vous en charger. Moi, je m'y essaye. C'est une méditation, bien sûr, donc autour du mythe d'Orphée, une figure, celle du poète et de l'amour, qui va charmer jusqu'au dieu des enfers pour libérer sa promise, Eurydice, mordue par un serpent le jour de leur fiançailles. Orphée, source d'inspiration des arts, de la peinture, de la littérature, de la musique, Oriane Delacroix. Hein.
Oui, bien on peut décompter un nombre incalculable de d'œuvres qui reprennent cette figure d'Orphée. Mais qu'est-ce qui fascine autant le créateur dans cette figure d'Orphée ?
Eh bien, au fond, par rapport au mythe, la seule question qu'on s'est réellement posée pendant tout le travail, c'est pourquoi Orphée se retourne ? Pourquoi, quand il descend aux enfers pour récupérer son Eurydice, on l'a bien prévenu, il faut surtout pas se retourner, mais au dernier moment, il ne peut pas s'empêcher et il la perd à jamais. Et cette question du désir et de l'éternité, elle a à voir avec la question du théâtre, la question de l'existence, de la trace laissée. Et c'est vrai que ce spectacle, je l'ai pensé en réunissant deux spectacles. Le Rabelais, que j'avais monté autour des paroles gelées, et le dernier spectacle que j'ai fait sur Proust. Ce dernier spectacle se termine par « J'aurais voulu faire constater aux sceptiques que la mort est une maladie dont on revient. » Et au fond, ce sont que des morts qui reviennent et qui s'accueillent les uns les autres et qui laissent des traces de ce qu'ils ont été, de pourquoi ils ont voulu vivre plus que tout. Alors évidemment, peut-être c'est parce que c'est lié à ce qu'on vit en ce moment, cette envie de vivre, cette envie de vivre plus fort, cette envie de ne pas être prudent et de pas être sanitaire forcément. En tout cas, ils se retournent parce qu'ils aiment passionnément plus que pour se préserver.
Et la narratrice, Hélène Pataro, dans la pièce, l'une des comédiennes fétiches de Peter Brook, parle en ouverture d'un voyage. Pour vous, c'est évidemment un voyage aux enfers, mais c'est aussi un voyage à travers quoi? Le désir, le langage?
C'est un voyage à travers la langue et à travers la musique. Comment la musique est en amont de la langue ou au contraire le prolongement? Alors à l'opéra, on dirait que c'est ce que l'on ne peut plus parler, on le chante. Et en même temps, la musique pense le monde, la musique soigne, la musique apaise. Et on a besoin de douceur. C'est vrai que je suis dans un moment où je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'il faut dire. J'aurais envie qu'on se taise plus les uns et les autres et j'aurais envie d'écouter de la musique. Et j'aime l'idée qu'on puisse écouter cette langue de Valère Novarina à ce titre, comme on écoute une magnifique sonate.
Sur scène, il y a cette ligne de feu, Jean Bellorini, comme une démarcation. Mais qu'est-ce qui sépare réellement, pour vous, ces deux mondes, celui des morts et celui des vivants?
Mais peut-être qu'il n'y a pas de séparation et que justement on se demande quel est le plus réel. Il y a cette phrase « Jean du réel » de Valère Novarina qui s'adresse au public, à ce qui apparemment est en vie. Et au fond, est-ce que ce qui n'est pas plus vrai, plus vrai encore, c'est la poésie, c'est ce qu'on a dans le rêve, c'est cette parole des dessous, ces paroles que l'on a quand on rêve, par exemple, ou ces paroles presque de la mort. On est dans ces enfers, on est dans cet immense paysage plein d'instruments fracassés, plein de feu, plein avec cette parole qui s'enflamme, cette combustion de la parole. Et pour moi, c'est aussi un hommage à l'acteur, mais c'est ce que porte Valère dans toute son œuvre. C'est cette nécessité que l'acteur puisse faire advenir la parole ou faire advenir l'acte grâce à la parole.
Valère Novarina, vous êtes, vous, justement, l'homme qui dit respecter beaucoup le réel, mais n'y avoir jamais cru. Vous croyez au rêve, en revanche ?
Oui, enfin, c'est un personnage qui dit ça. C'est pas... Moi, je voudrais revenir peut-être sur Monteverdi. Ce qui est extraordinaire, c'est comme la musique naturelle du texte qui apparaît. C'est pas une musique plaquée sur un texte, c'est une musique qui était sous le texte. C'est la musique sous le texte révélé. Je me demande parfois si la musique est pas l'inconscient du langage. Ou si la musique n'est pas l'animalité du langage. Cet été, j'ai été en contact dans la forêt avec des animaux, avec des sangliers, des cerfs et un loup. Et je les ai entendus, j'ai imité leur voix, j'ai cherché à parler aux oiseaux, etc. Et je me demande si la musique n'est pas justement dans le fond plus proche de l'animalité que de l'hominitude. Enfin, je ne sais pas comment dire, voilà. Donc l'idée aussi que l'ombre de la musique n'est pas une ombre après, c'est une ombre avant. C'est une ombre qui précède le sens et que la musique, le texte termine un peu sur ces choses-là, que la musique ouvre l'espace où se joue la pensée. Parce que tout notre travail, c'est de gagner de la souplesse, de l'ouverture sans arrêt, du jeu. Le mot jeu est très beau parce qu'il y a l'idée d'espace dedans. En patois savoyard, lorsqu'il y a du jeu entre deux pièces mécaniques, on dit ça locate. Voilà, c'est quelque chose de l'espace qui est mis, qui est ouvert et qui est comme la première impulsion. Le premier instant dure toujours. C'est-à-dire il y a l'impulsion d'un geste. Que ce qui compte partout, c'est le sens. L'essence, c'est la dynamique. Et aussi que parler est un geste. Et c'est un geste qui est juste ou qui est faux. Qui est faux et qui n'effectue pas ce qu'il doit effectuer. Ou c'est qu'il y a une sorte de justesse des acteurs. Et chacun des acteurs doit s'accorder à ce qu'il a à dire. Il n'y a qu'un point. Alors là, contrairement à beaucoup de monde, je pense qu'il n'y a qu'un endroit de vérité d'échange entre un texte, un rôle et un acteur. Il n'y a qu'un endroit où c'est juste. Il n'y a pas 36 endroits.
Et la musicalité de la langue passe aussi par le silence. Hein, le silence
oui,
qui
et,
est...
puis, et puis dans le fond, au fond de tout ça, la respiration. C'est-à-dire aussi le passage par la mort. Parce que j'ai toujours la sensation qu'on passe par la mort, je ne sais combien de milliers de fois par jour, chaque fois qu'on respire. Il y a un point d'asphyxie qui est traversé et donc on passe notre temps à renaître. Alors voilà, c'est pas vivre, c'est renaître tout le temps de la mort qui est une pratique quotidienne de... Peut-être par l'asphyxie ou l'asthme, je ne sais pas.
Bon, la musicalité de la langue passe aussi avec vous par le vertige de la liste, Valère Novarina. On retourne sur scène avec vous pour le jeu des ombres.
Un jour, j'ai joué de la trompe ainsi, tout seul, dans un bois splendide. Et les oiseaux, 1111, vinrent se pacifier à mes pieds quand je les nommais un à un par leur nom deux à deux. La lune note, la fuge, l'épille, le ventisque, le lure, le figile, le pendre, le ramble, l'entrève, le marnet, la lieure, le véran, le tridèle, l'enfuge, le jompiste, l'étourbe, le jumelet, l'atrope, le biscard, l'envette, la houspe, le hugret, le frille, le drillet, le balieux, l'ondre, le garment, la drelle, le houze, l'épartillon, le heume, le fouy, l'aspiro, la riderche, la fulque, l'ormix, le lependre, le gireux, l'oucard, l'ormand, le fleuge, le palistre, le circluse, l'épicase, le sarmio, le dorelon, le freuil, la loumiotte, le partian, le louim, le lien, le lidis.
Et voilà pour cette longue liste de mots, de noms, d'animaux, d'oiseaux notamment. Une question pour vous, Jean Bellorini, d'Oriane Delacroix.
On a l'impression que c'est comme si la langue de Novarina, prononcée par ses acteurs, opérait une sorte de métamorphose, transformait presque les acteurs en sorte d'autres créatures terrestres qui seraient vraiment entre les morts et les vivants, comme une sorte de nouveau chant.
En tout cas, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'errance. Ce sont des errants. Ils sont là. On est dans les dessous des théâtres, des dessous de soi-même. Et ces listes, c'est vrai que j'avais envie de tendre, enfin, de diriger ce spectacle avec toute l'admiration que j'ai pour Valère Novarina dans sa dimension furieuse, évidemment, mais aussi en accompagnement avec une forme de douceur, les acteurs, comme si ces listes pouvaient être pas forcément accumulatives, mais de l'ordre de la perte, et que chaque espèce, en l'occurrence espèce animale que l'on prononçait, c'était peut-être la dernière fois qu'elle pouvait vivre et exister, une dernière fois, puis une autre dernière, comme des derniers souffles. Valère parlait de renaissance et d'expiration et de petite mort perpétuelle, et au fond, la parole, dans cette pièce, j'entends comme ça un effondrement, un épuisement, mais une disparition, et une disparition peut-être plus grande que l'idée qu'on peut avoir de cette langue d'habitude qui reste évidemment profondément joyeuse et vivante, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de la perte et du manque.
Le drame de la vie, écrivait Valère Novarina en 1984, le drame de la vie, c'est qu'elle est assurément trop courte et qu'elle s'arrête. Vous parliez de renaissance, c'est finalement aussi ce qui arrive à la création en ce moment, des morts, des renaissances. On a l'impression que ce cycle-là est bien entamé et on ne sait pas où il s'arrêtera. Et cette pièce, Le jeu des ombres, en est un bon exemple. Vous l'avez d'abord imaginée pour la cour d'honneur du Palais des Papes à la demande d'Olivier Py. Vous l'avez travaillée chez vous à Villeurbanne, dans votre théâtre, Jean Bellorini. Aujourd'hui, elle reprend vie, mais on imagine autrement sur la scène de la Fabrica, avant de tourner dans d'autres théâtres partout en France. Vous avez changé le rythme, vous avez changé les couleurs, vous avez changé la taille de la scène, l'espace que vous alliez occuper.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette création est chargée de toute cette histoire et que les traces de l'espace de la cour d'honneur sont présents. Que évidemment que tous ces fantômes. D'ailleurs, il y a des noms de personnages dans la pièce de Valère qui sont des acteurs avec qui Valère Novarina a travaillé, qui sont aujourd'hui décédés. Et ça a guidé beaucoup de choses quand on pense à Daniel Znik, quand on pense à Christine Fersen, quand on pense à tant d'autres, mais que les acteurs puissent interpréter le rôle d'un acteur qu'on a pu voir sur le plateau il y a quelques années, tout d'un coup guidait énormément les choses. Et au fond, même jusqu'à la disparition de l'espace qu'était la cour d'honneur, point de démarrage de tout le projet. Donc il y a quelque chose de cet ordre. Effectivement, c'est le désir et la mort, l'amour et la mort, la réanimation, la remise en vie, peut-être plus de l'ordre du souvenir et de la réincarnation que de l'ordre de l'existence du présent.
Alors Valère Novarina, c'est aussi un art de la chute. Jean Bellorini, comment vous avez travaillé la chute, non pas du texte, mais de cette pièce ?
Eh ben, on vient d'entendre le dernier mot, en tout cas l'Eurydice. Chaque moment d'acteur, tout d'un coup prise de parole de l'acteur, est une chute, est une fin, est quelque chose de déterminé. C'est ça qui est magnifique, c'est que plus ça va être déterminé pour l'acteur, plus ça va être libéré pour le spectateur, et en fait l'imaginaire va être infini. On parlait de polyphonie, on parlait de nuance. Je crois que les artistes sont là aujourd'hui pour mettre de la nuance, de l'opacité, du trouble dans tout ce qu'on... Donc cette chute, elle est vertigineuse, elle est permanente dans le spectacle.
Merci beaucoup à vous, Jean Bellorini. Un grand merci à vous d'avoir été, même à distance, avec nous, Valère Novarina. Merci à tous les deux pour cette pièce, Le jeu des ombres, qui est présentée toute cette semaine à Avignon et qui suivra ensuite la route des Gémeaux à Sceaux en région parisienne du 7 au 22 novembre, qui se rendra ensuite au quai à Angers, qui passera par Villeurbanne et tout un tas de théâtres. Il y aura Marseille, il y aura Toulouse, il y aura Grenoble. Et ça, comme on le dit aujourd'hui, si tout va bien, on espère que cette tournée intégrale, entière, sera possible. Vous restez avec nous, Jean Bellorini, pour la deuxième partie de La Grande Table, avec Olivier Py, qui nous rejoint juste après le journal.